Prime Vert, le salon rencontre de l'Alter Écologie, une série d'émissions réalisées par Aura FM, la Fédération des radios associatives Auvergne-Rhône-Alpes.
Eh bien, nous sommes en direct du salon Prime Vert, l'édition 2023, et nous allons aller à la rencontre d'une association, qui est basée à Villeurbanne, mais qui rayonne sur l'ensemble de la France. Il s'agit de Démographie Responsable, une association qui place au cœur du débat la question de notre évolution démographique planétaire et quelles en sont les conséquences sur l'environnement et les questions que cela soulève, et surtout, quelles possibles solutions nous pouvons apporter. Je vous propose d'accueillir Didier Barthès, qui est le porte-parole de l'association. Bonjour Didier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et d'être venu à toquer à notre porte.
Merci à vous.
Alors, tout d'abord, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, c'est donc une association, comme son nom l'indique, qui va traiter de la démographie. Quel constat vous faites au sein de l'association par rapport à notre démographie ?
Alors, il y a deux choses. D'une part, nous constatons que le niveau démographique du monde est sans commune mesure avec celui qui a été celui de l'humanité tout au long de l'histoire. Nous sommes aujourd'hui 8 milliards. Au cours des 120 dernières années, nous avons multiplié nos effectifs par 5. C'est absolument gigantesque. On a gagné autant d'habitants au cours des 12 dernières années qu'au cours des débuts de l'humanité jusqu'à 1800. Donc on a une évolution extrêmement forte. Et cette évolution fait que nous occupons notamment tous les territoires qui normalement devraient également dévolus au reste du vivant et que nous sommes dans une phase d'extinction. On parle, vous le savez, souvent de sixième extinction, qui est absolument extraordinaire et quand même très grave, d'autant que la nature mettra du temps à s'en remettre. Et il se trouve qu'alors que l'ensemble de la société place les valeurs écologiques assez haut, on voit avec le succès de ce salon, tous les mouvements politiques essayent de raccrocher l'écologie, eh bien il se trouve que dans les débats sur l'écologie, presque tout porte sur le mode de vie. Comment consommer moins, comment polluer moins, etc. C'est des débats nécessaires, bien entendu. De ma part, il ne s'agit absolument pas de nier cet aspect des choses. Mais on trouve qu'il y a un manque au niveau de la prise en compte tout simplement du nombre des hommes. Nombre des hommes qui va influer, comme je le disais, sur la consommation d'espace, sur la consommation de ressources, mais également qui va empêcher les pays les plus pauvres d'accéder à un meilleur niveau de vie, parce qu'on ne pourra pas tous être riches à notre niveau, c'est pas possible. Donc on estime qu'il y a une place pour ce débat, et voilà, on essaye de prendre cette place et d'en faire part aux journalistes, aux hommes politiques, aux autres mouvements politiques, etc., et aux associations.
C'est vrai que la population mondiale n'a jamais atteint un tel niveau.
Jamais.
Et c'est vrai que si on fait confiance aux courbes, avant qu'on inverse la courbe, il va se passer quand même quelques décennies, voire des siècles. Est-ce que c'est une erreur de penser que le problème vient plus du mode de vie des humains plutôt que la quantité ? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut se dire que finalement, même si on était un peu plus nombreux, mais que nous vivions de manière très sobre et simple, est-ce que finalement ça pourrait être une solution ?
Alors, c'est l'objection qui nous est faite toujours, exactement. Dans mon esprit, il n'y a absolument pas de raison d'opposer les deux actions. D'ailleurs, à titre personnel, là, je suis venu au nom de ma casquette de porte-parole de démographie responsable, mais je suis par ailleurs également le coprésident du mouvement écologiste indépendant d'Antoine Wechter. Donc j'ai aussi un engagement, je dirais, politique et sur les autres aspects de l'écologie. Donc je suis tout à fait conscient des problèmes. Simplement, sur la démographie, j'en parle parce que personne n'en parle. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est pas du tout de ma part un rejet. Et j'insiste surtout sur le nombre parce que beaucoup de gens pensent qu'en insistant sur le nombre, on laisse de côté l'autre aspect et notamment l'aspect des pays les plus pauvres parce que on le sait bien, c'est là qu'il y a le plus d'enfants. Eh bien, au contraire, on dit c'est justement dans les pays les plus pauvres qu'on doit leur donner accès à un meilleur niveau de vie, à une meilleure éducation et que ceci est incompatible avec le nombre. Donc, ce n'est pas du tout une opposition ou un rejet des gens qui font plus d'enfants, c'est au contraire essayer de préserver doublement l'avenir, d'une part pour la nature, parce que quand même cette affaire de sixième extinction, c'est pas une plaisanterie, et puis d'autre part pour les hommes eux-mêmes, qu'ils aient un avenir, et même je dirais, et ça c'est curieux, les gens ont parfois du mal à le comprendre, mais pour préserver demain le droit des gens d'avoir des enfants. Nous avons vu dans des pays qui avaient laissé filer leur démographie, je pense par exemple à l'Inde, mais c'était également très connu en Chine où il y a eu des mesures telles que l'enfant unique, qui étaient des mesures liberticides, et bien nous disons, si nous voulons éviter que demain, devant de telles impasses, il y a un certain nombre de gouvernements autoritaires qui prennent des mesures liberticides en vous disant vous avez un enfant, voire zéro enfant. Non, c'est pas ce qu'on veut. On est favorable à des mesures douces d'incitation, comme je vous l'ai dit, sur l'éducation qui favorise la baisse de la fécondité et également sur l'accès à la contraception.
Des mesures douces, hein, c'est les actions que vous menez donc au sein de cette association. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous dire où c'est que vous agissez et comment vous agissez? Quel est le message?
Alors, ce sont essentiellement des actions de message. Nous n'avons pas les moyens financiers, par exemple, de fournir de la contraception à l'ensemble de la planète. Ça, c'est l'affaire des très grandes organisations. Je pense à l'UNFPA, qui est la branche de l'ONU qui s'occupe de population. Donc, nous, c'est surtout un message. Alors, nous, vous verrez sur notre stand, nous présentons des préservatifs, mais c'est plutôt à titre de symbole, bien évidemment. Donc, c'est surtout, comme je vous le disais au départ, essayer de faire d'introduire ce débat au sein de l'ensemble de la mouvance écologique. En faisant le tour du salon, vous verrez que presque tout le monde est écolo ici par définition, et vous verrez que très peu de gens, c'est le cas de ELV, mais c'est le cas aussi de beaucoup d'associations, acceptent d'évoquer cette question. Donc notre premier travail, c'est de dire cette question est importante et elle n'a pas raison d'être taboue, et surtout cette question n'est pas anti-humaniste, pas du tout, bien au contraire.
Est-ce que vous pensez que cette question n'est pas abordée parce qu'on a un héritage culturel qui vise un peu, justement, il faut faire des enfants? On en parle encore cette année en France. Le niveau de natalité n'a jamais été aussi bas que depuis 1945, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, le nombre de naissances, précisément.
Voilà, pardon. Et alors, est-ce que ce tabou n'est pas un héritage culturel, peut-être, et qu'il faut combattre, finalement?
C'est un héritage culturel, mais de toutes les sociétés, de tous les groupes humains, de toute l'histoire. Vous pouvez prendre des mouvements considérés comme de droite, des mouvements considérés comme de gauche, vous pouvez prendre des pays pauvres, vous pouvez prendre des pays riches. De toute façon, globalement, tout le monde est nataliste. Vous pouvez prendre les églises également qui sont natalistes. Presque tous les groupes humains sont natalistes, ce qui n'est pas tout à fait le cas des gens. On a fait un sondage avec l'IFOP qui montre qu'il y a en France, par exemple, une grande quantité de gens qui sont tout à fait conscients de ce problème. Alors maintenant, le problème se pose de manière différente dans des pays pauvres où il y a une forte natalité. Et puis dans les pays riches où il y a une plus faible natalité et fécondité, notamment en France par exemple, on est descendu en dessous de 2 enfants par femme, mais où néanmoins le niveau de consommation fait qu'on ne peut pas généraliser notre niveau de consommation à l'ensemble de la planète. Donc il faut agir dans les pays pauvres parce que c'est là qu'il y a le plus grand potentiel d'explosion démographique, mais il faut également agir dans les pays riches parce que c'est là que chaque être humain consomme le plus. Oui. Et souvent les gens nous opposent les uns. Alors des gens qui ont une tendance, je dirais, entre guillemets, de gauche vont nous dire, ben non, mais écoutez, pourquoi vous mettez en cause la démographie dans les pays pauvres alors que c'est dans les pays riches qu'on pollue? Puis des gens qui vont avoir une position inverse vont nous dire, mais pourquoi vous parlez de la France alors que c'est pas en France qu'il y a une explosion démographique, c'est dans les pays pauvres. Donc vous voyez, il y a les deux choses. Eh bien nous, on répond à cela, aux uns et aux autres. Non, il faut agir dans les deux. Et même en Europe, nous avons des pays riches, effectivement, où la fécondité est maintenant assez basse, mais vous avez quand même des densités démographiques extraordinaires. Aux Pays-Bas, vous avez 400 habitants au kilomètre carré, en Belgique, plus de 300, dans le sud de l'Angleterre, 280, en Italie, plus de 200, en Allemagne aussi, des fortes densités. Donc même dans les pays riches où la fécondité est plus basse, il est important d'agir. Et nous ne reprenons pas, j'insiste sur ce plan, nous ne reprenons pas habituellement la fameuse histoire de qui va payer les retraites, parce que c'est un petit peu ridicule. C'est-à-dire, si on considère que pour, de manière générale, équilibrer les comptes publics, on doit faire toujours plus d'enfants, c'est-à-dire que chaque génération doit être supérieure en nombre à la précédente.
C'est sans fin.
C'est sans fin. Voilà, moi j'appelle ça une pyramide de Ponzi démographique, c'est sans fin. Donc ce n'est pas la bonne solution. Il faut accepter qu'il y ait quelques difficultés au moment du changement de rythme, mais c'est sans fin sinon, donc on ne peut pas.
Est-ce que vous disposez de chiffres sur l'avenir? C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses sur la démographie future. Ça peut même être un objet un peu de débat politique suivant quelle étiquette on porte. Certains sont très alarmants sur la quantité et d'autres au contraire disent attention parce qu'on est de moins en moins nombreux. Voilà. Concrètement, est-ce que vous savez ce qui s'annonce vraiment?
Alors, d'abord, ceux qui disent on est de moins en moins nombreux, ben non, ça c'est factuellement faux. Oui. On est 80 millions de plus par an sur la planète. Oui. Le taux de fécondité a baissé, ça j'en conviens bien. Dans les années 50, en moyenne, les terriens faisaient 5 enfants par femme. Aujourd'hui, ils en font 2,3. Donc le taux de fécondité a baissé et quand la fécondité, c'est le nombre d'enfants par femme. La natalité, c'est le nombre d'enfants rapportés à la population, en général sur 1000 habitants. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'effectivement la fécondité et même la natalité baissent, sauf qu'évidemment elle s'applique à des volumes plus importants. Je cite toujours un exemple, entre 1960 et 1970, on a gagné environ 700 millions d'habitants sur la planète, c'est-à-dire 70 millions d'habitants par an. Et la fécondité était très forte. Aujourd'hui, la fécondité a été divisée par 2, mais on est 8 milliards. Donc en réalité, on gagne plus non seulement il y a plus de gens, mais on en gagne plus chaque année. Donc vous voyez, il y a ça. Alors pour les projections dont vous me parlez, en général les projections de l'ONU et de l'INED, qui sont des organismes quand même relativement sérieux, considèrent que pour 2050, on sera à peu près 9,7 milliards. Et ces projections sont reprises à peu près par tout le monde, tout simplement parce que la démographie présente une certaine inertie. Si vous voulez, bien évidemment, les gens qui vont avoir des enfants dans les 2-3 décennies qui viennent, ils sont déjà nés pour l'essentiel. Donc les comportements ne vont pas changer du tout au tout. Donc pour 2050, il y a presque accord de tout le monde. On sera entre 9,6 et 9,8 milliards. Par contre, après, vous avez raison de poser la question parce que là, il y a des divergences. La projection de l'ONU fait qu'on serait 10,4 milliards en 2100, mais là, il y a quand même une marge d'erreur qu'on ne connaît pas. Il y a un certain nombre de personnes qui ont dit qu'au contraire, ça allait baisser, qu'il y aurait une pointe en 2060-64, et puis qu'ensuite, ça commencerait à baisser. Mais on ne peut pas le dire, on n'en sait rien, parce que là, pour le coup, les naissances qui auront lieu dans les années 2060-2070 sont le fait de gens qui ne sont pas encore nés, et dire un peu quel sera leur comportement, c'est un pari, quelque part.
Bien sûr.
Donc je vous dis, il faut vraiment distinguer les projections à moyen terme, disons 2050, et puis les projections à plus long terme. Il y a un risque, évidemment, il y a un risque que ça dérape dans les deux sens. Moi, je suis favorable à ce qu'on s'oriente vers une population moins nombreuse pour préserver la nature et donner plus à chacun. Mais évidemment, mes souhaits à moi ne sont pas des valeurs de projection. Je ne le sais pas plus que les autres. En tout cas, je ne prendrai pas l'option qui consiste à dire, comme on voit une baisse de la fécondité, on la projette dans l'avenir à très 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 long terme. Alors effectivement, si on a moins de 2 enfants par femme sur des centaines d'années, oui, là, la population humaine diminuera très fortement. Mais on n'en est pas là. Et surtout, les projections qui disent les taux de fécondité vont continuer sur leur évolution actuelle de baisse, c'est un pari. On a déjà vu d'ailleurs, quand ça baissait beaucoup, ça finit par remonter. Donc je reste très inquiet, d'autant que je pense que même une stabilité démographique qui nous maintiendrait à 8 milliards ne serait pas tenable du point de vue ni social ni environnemental.
En tout cas, c'est vraiment source de débat, hein, cette question de
Absolument.
La démographie planétaire, et ça peut être en tout cas la maîtriser et apporter des solutions, comme vous l'avez dit, douces, peut-être aussi l'une des solutions face à l'épuisement des ressources naturelles notamment.
C'est ce que je préconise en tout cas.
Un grand merci d'avoir été avec moi ce matin, Didier. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose avant que l'on se quitte ?
Eh bien écoutez, que j'accueille tous les gens du salon sur notre stand pour discuter de cette question. Vous l'avez dit, c'est parfois polémique, mais je tiens vraiment à montrer que nous on a une position pas du tout agressive, mais vraiment tout à fait humaniste, et tous les gens ont une conscience écologique, et surtout ne rejettent pas l'autre volet du problème que vous avez évoqué, c'est-à-dire le mode de consommation, bien au contraire. Et puis aussi, s'il y a des gens que ça intéresse, je signale un livre qui a été écrit par Antoine Wechter qui s'appelle Le défi du nombre.
C'était donc l'association Démographie Responsable, et donc c'était le porte-parole Didier Barthès. Et donc c'est une association qui rayonne sur l'ensemble du pays, mais que vous pouvez retrouver le siège social à Villeurbanne. Merci encore.
C'est moi qui vous remercie de votre accueil, très gentil. Merci.
Prime Vert, le salon rencontre de l'Alter Écologie, une série d'émissions réalisées par Aura FM, la Fédération des radios associatives Auvergne-Rhône-Alpes.